Wam, wadum de hele. Mam de kali, wam, wadum de hele. Wam, wadum de hele. Mam de kali, wam, wadum de hele. Swam, swadum de henje. Mam de kali, swam, swadum de hele.
Auditeurs, auditrices, bienvenue si vous nous rejoignez sur le 99.5 FM. C'est aujourd'hui lundi 8 septembre, la deuxième de la saison 2 d'I Love Mes Cheveux. Une émission diffusée depuis janvier, deux ou trois lundis par mois, de 9h30 à 11h en direct, et évidemment en podcast. I Love Mes Cheveux, comme son nom ne l'indique pas, c'est une émission consacrée à la traduction et au plurilinguisme. Je suis Guillaume Singal, et aujourd'hui je suis seul au micro. Comme je suis seul, j'espère qu'il y a quelques auditeurices qui m'aideront à construire l'émission grâce à leurs questions. Je rappelle qu'il y a un compte Instagram dédié, ILMC 2025. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de langues construites et de langues inventées, alors je vous laisse déjà écouter en entier la chanson de générique, différente des autres fois, mais toujours de Julien Jacob. Alors, vous êtes bien sur le 99.5 FM Radio Campus Tour, I Love Mes Cheveux, et donc aujourd'hui, une émission spéciale Langues construites, langues imaginaires. Vous écoutiez Hey Lou de Julien Jacob, paru sur l'album Chanty en 2000. Alors, Julien Jacob est un chanteur d'origine béninoise, français d'origine béninoise, et donc avec 25 ans de carrière derrière lui, vu que ce que vous venez d'entendre a pile un quart de siècle. Et si je veux vous demander, comme ça, dans quelle langue est la chanson que l'on vient d'entendre, peut-être que vous vous diriez, en raison des origines du chanteur et des consonances aussi de la langue, qu'il s'agit d'une langue africaine. Eh bien, en fait, oui et non, puisqu'il s'agit d'une langue entièrement inventée par le chanteur, qui est aussi l'auteur et le compositeur. Et donc, Julien Jacob, moi, je l'ai découvert à ses tout débuts avec cet album, Chanty, et c'est un de mes artistes préférés. C'est aussi pour ça que l'on entend une de ses chansons systématiquement au générique de début et parfois aussi en générique de fin de I Love Mes Cheveux. Et donc, Julien Jacob a très vite fait savoir que les paroles de ces chansons n'étaient pas dans une langue, n'étaient pas dans une langue qui existe, mais étaient dans une langue inventée. Et je vous propose d'écouter la manière dont il expliquait cela au micro de France 2 en 2008 dans l'émission C'est d'aujourd'hui.
Je chante dans une langue que je qualifie d'inspirée. Il ne s'agit que de vibrations et d'émotions. Il s'agit pour moi de toucher le cœur de l'autre et de lui faire vivre les propres émotions qui baignent dans son monde intérieur. Le but, c'est de parler à son cœur plutôt qu'à son intellect. La musique, c'est une oreille qui écoute la vie et je crois que et qui essaie d'écouter le maximum de ce que la vie peut porter en elle, quoi. J'utilise ma voix comme une sorte d'instrument qui aurait un battement de cœur et qui aurait ses propres humeurs et qui serait d'une seconde à l'autre en pleine réflexion ou alors pleine de joie ou alors mélancolique, voilà.
Voilà, nous écoutions Julien Jacob dans l'émission C'est d'aujourd'hui en 2008 sur France 2. Et donc, voilà ce qu'il disait. Hein. Je rappelle une partie de ce qu'on vient d'entendre. Ma voix est comme un instrument qui aurait un battement de cœur, ses propres humeurs. Alors effectivement, ça a de quoi un petit peu surprendre ou étonner peut-être, mais il y a de très nombreux exemples d'artistes qui ont chanté dans des langues qui n'existent pas, ou qui plus exactement des langues inventées, et qui à partir du moment où elles sont inventées, bah, se mettent évidemment à exister. C'est le cas notamment d'un groupe américain, nettement plus connu je pense que Julien Jacob, les Talking Heads, avec leur chanteur David Byrne, qui sur leur troisième album en 1979, chanter une chanson qui s'appelle Izimbra et qui ne parlait pas d'un logiciel de messagerie électronique, hein, c'est trop tôt pour ça, mais ça s'écrit exactement pareil. Izimbra, je vous laisse écouter.
Yeah!
Jimmy Zimbra, Talking Heads, 1979, toujours sur Radio Campus Tours. Alors, on parle de langues inventées, de langues imaginaires, et c'est pour ça que j'ai diffusé cette chanson. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de reconnaître les paroles ou d'identifier les paroles, mais c'est dans une langue inventée. Mais contrairement au cas cité précédemment, celui de Julien Jacob, ici, Talking Heads, et David Byrne en particulier, a choisi de chanter un texte écrit, en fait, pendant la Première Guerre mondiale, par un des fondateurs du mouvement dadaïste, l'allemand Hugo Ball. Et ce texte, donc, chanté ici, est un texte de Hugo Ball. Alors, je ne vais pas commencer à partir dans l'exploration des inventions linguistiques du mouvement Dada dans les années 1910-1920, ni dans celle du mouvement lettriste dans les années 50, d'abord parce que je ne suis absolument pas spécialiste de ces questions. Et donc, c'est un appel aussi, hein, si quelqu'un, à un moment donné, ici, connaît quelqu'un qui pourrait parler du lettrisme, du dadaïsme, eh bien, on peut refaire une émission sur les langues imaginaires et les langues inventées à partir de ces courants littéraires-là. Donc voilà, la chanson que vous venez d'entendre, c'est un texte de Hugo Ball. Et Hugo Ball, il a écrit un très grand nombre de textes qui sont comme ça dans des langues inventées. Si vous allez sur l'article Wikipédia consacré à ce poète, Hugo Ball, mort très jeune, à 41 ans, vous verrez qu'il y a notamment un autre extrait, un autre poème dans une langue inventée. Qui figure là sur l'article Wikipédia. Alors, ce qui est intéressant, en fait, dans cette histoire-là, c'est que, par exemple, les dadaïstes faisaient des lectures de poèmes vocaliques, c'est-à-dire c'est des conférences de voyelles. C'est-à-dire ils passaient plusieurs minutes à crier, comme ça, à hurler des voyelles, les unes à la suite des autres. Et donc, effectivement, on peut évidemment y voir une dénonciation du langage articulé. Alors, la démarche de Julien Jacob n'a rien à voir avec ça, puisque c'est au contraire une démarche en quelque sorte d'harmonie, une démarche de chercher à rendre des humeurs par une langue qui n'existe pas. Mais c'est pour montrer que, ben, en fait, Julien Jacob n'est évidemment pas le premier à décider que les langues préexistantes ne lui suffisent pas, ou en tout cas ne sont pas ce avec quoi il souhaite créer. Alors, quand on parle de langues inventées, un petit peu, moi j'ai annoncé il y a quelques jours que j'allais consacrer une émission à ce sujet, et effectivement, une des références que pas mal de gens donnent, beaucoup de gens pensent à la musique de Magma, un groupe mythique de jazz rock fondé en 1969, et célèbre notamment pour ses paroles, presque systématiquement dans une langue inventée par Christian Vander, un des fondateurs du groupe. Et cette langue, c'est le cobayen. Alors, le cobayen, son inventeur a dit dès le début que c'était une langue extraterrestre. Et donc, dès le premier album, qui s'appelle Cobaya, en 1969, il a utilisé cette langue pour raconter la façon dont des extraterrestres rentrent en contact avec des humains. Et je vais vous laisser écouter le tout premier morceau de ce tout premier album de Magma qui s'appelle Cobaya, et on va voir si vous identifiez le cobayen. J'adore ça, mais la chanson fait 10 minutes, même si aujourd'hui je vais effectivement profiter du fait que je suis tout seul pour diffuser pas mal de sons, je l'admets, un peu paresseusement. Là, quand même, je ne vais pas vous faire écouter en entier Kobaya, mais je le laisse un petit peu en fond pendant que je dis deux, trois mots. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la langue dans laquelle est chanté ce début de morceau, mais alors que ça s'appelle bien Kobaya, ça n'est pas du tout en kobayen. Ce que vous avez entendu, c'est de l'anglais. Et je vous invite à aller réécouter par vous-même, chercher sur le web. C'est bien de l'anglais qu'on entend. Et j'avoue que j'ai déjà eu cette conversation une fois avec quelqu'un qui croyait dur comme fer que toutes les chansons de Magma étaient en kobayen. Bah, en fait, c'est dans un anglais qui n'est pas toujours extraordinairement audible en tant que tel, on va dire ça comme ça. Alors, si on veut entendre du kobayen, et je vais vous en faire entendre, je vais vous diffuser un extrait de leur album de 1973 qui s'appelle Mécanique Destructive Commando, je ne sais pas comment il faut dire, il y a des trémas partout. Vous écouterez de toute façon, on l'entend dit dans le morceau par les chœurs. Et donc je vais vous mettre un petit extrait de cet album, du tout premier morceau. Et là pour le coup, même en cherchant sur internet, je vous mets au défi de traduire.
Mécanique.
Encore, je ne diffuse pas le morceau en entier. Vous venez d'entendre donc des extraterrestres très humains parler dans une langue extraterrestre ou sensémentelle, mais fabriquée bien entendu par des humains, notamment Christian Vander et les autres membres du groupe Magma. C'était un extrait de leur album de 1973. Alors je pense que vous serez d'accord avec moi, et je me suis assuré quand même que j'étais pas tout seul à le penser, pour dire que quand même l'influence la plus évidente d'une langue humaine, c'est des influences slaves et germaniques. Très clair, je trouve, dans les couplets dits par la voix masculine dans cet extrait. C'est évidemment, on pourrait ironiser en disant que finalement les extraterrestres, notamment en 1969, en pleine période de guerre froide, c'était peut-être les soviétiques. Je ne sais pas si c'est vraiment le sens qu'il faut donner politiquement au geste esthétique et artistique de Magma. Bon, c'est une plaisanterie, bien entendu. Mais pour en revenir à cette question de la langue fabriquée, évidemment, elle se prétend extraterrestre, mais toutes ces langues fabriquées sont bien entendu fabriquées par des humains, et par des humains qui pratiquent tous et toutes des langues, qui ont tous et toutes au moins une langue maternelle. Donc il est assez difficile d'imaginer que ces langues inventées ne s'accrochent pas, en quelque sorte, sur des sonorités, des structures extrêmement, proches de celles des langues réelles. Alors, quand j'ai discuté du projet d'émission avec Claire Tasté, du compte Instagram Vaux qu'en lettres, et j'en profite pour vous dire que si vous voulez poser les questions, réagir, il y a le compte Instagram ILMC 2025, avec la dernière publication sous laquelle vous pouvez commenter, poser vos questions. Je disais donc, en discutant avec Claire Tasté, Vaux qu'en lettres, elle me disait, ah ben tiens, tu devrais parler du langage des extraterrestres dans le film de Denis Villeneuve, Premier Contact, Arrival. Ah oui, mais c'est pas très radiophonique, parce que pour celles et ceux d'entre vous qui ont vu le film, ils écrivent par projection d'encre sur des parois transparentes. Donc évidemment, ça n'est pas extrêmement simple de vous raconter ça à la radio. Mais si je dis ça, c'est parce que ce film, il tente effectivement d'imaginer une langue extraterrestre qui ne correspond absolument pas, et d'ailleurs, ça correspond dans le film à toute une manière aussi d'envisager le temps, qui n'a rien à voir avec notre expérience humaine du langage ou du temps. Voilà. Alors, pour citer l'article de la Wikipédia consacré au cobayen, le cobayen dont vous continuez d'entendre des bribes en dessous de ma voix, c'est toujours magma. Voilà ce que dit l'article Wikipédia. Contrairement à l'espéranto ou au volapük, il ne s'agit pas d'une langue construite à proprement parler, dans la mesure où sa syntaxe demeure largement incomplète et son lexique toujours en cours d'élaboration. Il faudrait donc distinguer les langues construites dotées d'une syntaxe, d'une grammaire et d'un vocabulaire complet des langues inventées. Alors c'est un petit peu évidemment subtil comme différence parce qu'au départ, bien entendu, toute langue qui est inventée par une seule personne ou un groupe de personnes de façon artificielle, et on les appelle d'ailleurs souvent des langues artificielles, au départ est une langue inventée. Donc pour accéder au statut de langue construite, il faut que la langue inventée se dote d'une grammaire, d'un vocabulaire, d'une syntaxe, en quelque sorte qu'elle puisse être apprise puis comprise par un ensemble de locuteurs et de locutrices. C'est finalement une définition relativement standard de ce qu'est la langue. Et comme je ne m'y suis pas pris assez à l'avance pour préparer cette émission, je n'ai pas pu coincer un ou une collègue linguiste pour venir parler de cette question. Mais après tout, je pense que le sujet des langues construites et imaginaires, inventées, artificielles, est suffisamment riche pour qu'on imagine un acte 2, voire un acte 3. Donc la proposition est lancée. Comme je n'ai pas de linguiste sous la main, eh bien je vais vous diffuser un extrait d'une émission de France Culture, l'émission La méthode scientifique, datée du 1er mars 2019. Nicolas Martin recevait le linguiste Frédéric Langrin dans une émission qui s'intitulait « Langue de fiction, option Klingon ».
Prochaine.
How did you...
La méthode scientifique... Nicolas Martin.
Valar Morghulis, dit Arya Stark dans Game of Thrones. Valar Morghulis, pour tout homme doit mourir en haut valyrien. L'un des nombreux langages fictifs, alors il faut dire langage fictif, mais aussi langage imaginaire, mais plutôt même aujourd'hui langage construit pour constructed language en anglais ou conlang, avec le Dothraki, le langage des cavaliers barbares. Ça rejoint la très longue liste de ces langages inventés par des auteurs, au premier rang desquels, bien sûr, J.R.R. Tolkien, qui inventa l'un de ces langages elfiques, le Kenya, avant même de commencer la rédaction de ses romans. Alors, si l'invention de ces langages fictifs est une tradition littéraire ancienne, d'Aristophane à Lewis Carroll, en passant par Cyrano de Bergerac, mais somme toute marginale jusqu'à présent, aujourd'hui, ces langages sont devenus indispensables à la fiction de l'imaginaire, au point que des linguistes sont appelés en renfort par les superproductions cinématographiques ou sérielles, ce qui fit dire à David Peterson, le créateur de nombreux conlangs, à une autre époque, il aurait été de mise d'improviser du charabia pour faire parler les extraterrestres et autres créatures fantastiques. Aujourd'hui, si vous réussissez à créer les dragons les plus réalistes que le monde ait jamais vus, mais que vos elfes déversent du charabia, l'illusion ne tiendra pas. Pour évoquer donc ces langages construits et leur histoire, nous sommes en compagnie de Frédéric Landragin, qui est chercheur en linguistique au CNRS et auteur de « Comment parler aux aliens » dans la collection Parallax aux éditions du Bélial. peut-être Frédéric Landragin peut remonter justement un peu aux origines. C'est une vieille tradition, c'est une tradition littéraire très ancienne, d'imaginer des langages qui n'existent pas.
Oui, et en particulier dès qu'on est dans l'imaginaire. Donc vous avez parlé d'Aristophane, donc ça c'est vraiment très ancien. Peut-être que les exemples qui commencent à être les plus intéressants, c'est dans les années 1600, où il y a eu un certain nombre de romans qui sont parus, donc L'homme dans la lune de Francis Godwin, donc les romans de Cyrano de Bergerac qui se passent dans la lune et puis après dans le soleil, donc qui évoquent des expéditions de l'humain dans ce qui, à l'époque, faisait le rêve. Hein. Après, ça a été Mars ou Alpha du Centaure ou autre. À l'époque, c'était la Lune, donc on imaginait qu'il y avait des habitants, les Sélénites, et qui parlaient une langue. Et donc, dans ces œuvres donc des années 1600, puis après 1700, enfin, il y en a eu plein, on a pu voir des inventions de langues avec, par exemple, de la musique, ou des auteurs qui se sont amusés à décliner un certain nombre de noms, de verbes, pour imaginer une langue qui ressemblerait à une langue humaine.
C'est-à-dire que souvent, on décrit une langue fictive, on dit qu'elle existe, mais on ne la construit pas encore tout à fait.
Ben non, parce que on est dans le roman, donc il faut que la langue arrive au fur et à mesure de l'intrigue. On peut pas commencer un roman avec voilà, il se passe quelque chose, il y a un drame, etc. Et hop, on fait un traité de grammaire pour que le lecteur puisse comprendre exactement ce qui va suivre. Donc les mots sont introduits un par un, éventuellement par phrases qui sont potentiellement paraphrasé de manière à ce qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. Ça, au cinéma, on le voit pas mal. Par exemple, dans La Guerre des Étoiles, quand on voit les dialogues avec Chewbacca, on comprend rien à ce qu'il dit, puisqu'il grogne, en gros. Mais les autres à qui il parle répètent un petit peu « Ah oui, tu dis que machin », et donc, ok, on comprend.
C'est ça, on va revenir là-dessus sur cet exemple de Chewbacca. Il y a une grammaire chez Vera Dallet, qui est un auteur du XVIIe siècle, un écrivain d'utopie. On trouve en annexe de l'histoire des Sévarambes une grammaire construite pour finalement décrire justement ce langage imaginaire. C'est la première grammaire de l'histoire de la littérature ?
D'une langue inventée, peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un procédé qui a été pas mal utilisé après. C'est-à-dire que dans la fiction, on est obligé de faire en sorte que la langue soit introduite au fur et à mesure, mais donc juste par quelques phrases et donc que quelques termes, peut-être une cinquantaine ou une deux centaines. Or, il se peut que l'auteur a vraiment fait un travail de conception de langue qui a pris des mois, et donc il ait envie d'en rendre compte d'une façon autre que par la fiction elle-même, et il ajoute donc à son roman une annexe dans laquelle il met un dictionnaire, un lexique, une grammaire, des déclinaisons, et ainsi de suite.
Alors évidemment, l'exemple canonique en littérature contemporaine, c'est bien entendu celui de Tolkien, je le disais tout à l'heure, hein, Tolkien qui a presque écrit ses romans pour donner un cadre aux langues qu'il avait inventées auparavant. Leçon numéro 1 donc, elfique, Kenya, dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, écoutez.
Amalekdin. I antigwil arwen budomier. Pilifon.
Anidoni ebroniathan. Ada eperiathan. Atharimethi de damare.
Alors, nous reparlerons tout à l'heure des langues inventées par Tolkien un peu plus tard dans cette émission. Mais vraiment, merci beaucoup à Nicolas Martin, auteur du podcast La méthode scientifique sur France Culture, qui recevait le linguiste Nicolas, il faut que j'arrête de me tromper, Frédéric, je vais y arriver, qui recevait linguiste Frédéric Landragin, et non pas Landagrin, comme je l'ai dit au départ. Visiblement, moi-même, j'invente des langues par permutation des consonnes, c'est pas terrible. Donc voilà, donc vous avez le droit d'écorcher mon nom aussi en m'appelant, je sais pas, Guillaume Klinga, par exemple, pourquoi pas, on serait pas si loin que ça, du Klingon. Alors, Frédéric Landragin expliquait extrêmement bien l'histoire de ces langues construites, et dans cette émission, et la plus connue et la plus parlée des langues construites est évidemment l'espéranto. Créée par un ophtalmologue polonais nommé Zamenhof, elle avait pour vocation de devenir une langue véhiculaire internationale et de contribuer ainsi à l'amitié entre les peuples et à la paix dans le monde. Le nombre estimé de ces locuteurs Is suit une fourchette très large, entre 100 000 et 3 millions. C'est un rapport de 1 à 30, on imagine assez mal si on interroge, je ne sais pas, des linguistes pour dire « Tiens, combien y a-t-il de locuteurs de l'italien dans le monde en langue maternelle ou en langue seconde ?» que la réponse soit entre 50 millions et 5 milliards. Ça serait un petit peu surprenant quand même. Donc voilà, il y a une vraie incertitude par rapport à ça. Alors, dans la mesure où l'espéranto a été créé il y a désormais pas loin d'un siècle et demi, et vu qu'il a eu un certain succès, cela signifie qu'un certain nombre d'œuvres ont été écrites en espéranto et que certains textes célèbres aussi ont été traduits dans cette langue. Je crois qu'il y a, par exemple, un certain nombre d'exemplaires d'Astérix, d'histoires d'Astérix, d'albums d'Astérix qui ont été traduits en espéranto. J'avoue que je n'ai pas revérifié. Je dis ça, peut-être que c'est une fake news à vérifier. Je ne sais pas comment on dit fake news en espéranto non plus. En revanche, ce qui est certain, c'est que Le Petit Prince de Saint-Exupéry a été traduit en espéranto. Je vous laisse écouter.
Princo de Antoine de Saint-Exupéry. Chapitre 12.1. En tiu momento aperis vulpo. Bonan tagon, diris la vulpo. Bonan tagon, gentile respondis la eta princo. Li turnigis, sed nenion vidis. Mi esas tie ci, sub la pom arbo, diris la vocio. Kiu vi estas, diris la eta princo. Vi esas suffice beleta. Mi esas vulpo, diris a vulpo. Venu ludi cun mi, proponis al gi la eta princo. Mi esas tiel malgaia. Mi ne povas ludi cun vi, diris a vulpo. Mi ne estas malsovagigita. Ha, pardonu, diris a eta princo. Sed post pripenso li aldonis. Kion signifas malsovagi?
Alors, vous écoutiez, vous écoutez encore, en dessous de ma voix, Le Petit Prince, chapitre 21, lu dans la traduction en espéranto. Et je n'ai pas retrouvé l'auteur ou l'autrice de cette traduction. Et on peut écouter ça sur... on peut écouter ça grâce à une vidéo du compte YouTube Kangourouo, publié en 2011. Alors moi, ce qui m'amuse, c'est que là, je vous diffuse cet extrait de vidéo sur YouTube. Mais ce qui est intéressant ou amusant, c'est qu'un commentateur lusophone a reproché en commentaire à la lectrice de ne pas respecter la prononciation universelle internationale de l'espéranto et d'avoir, je cite en traduisant du portugais, un fort accent français. On pourrait entrer dans un débat très complexe à partir de cette question. Qu'est-ce qu'une langue inventée, construite, qui se prétend véhiculaire afin de favoriser l'amitié entre les peuples et dont les locuteurs commencent à se reprocher de parler avec tel ou tel accent trop marqué? La glottophobie, notre sujet d'il y a deux semaines, pour la première émission de la saison 2 avec Priscilla Toy, que je salue, revient là où on ne s'y attendait pas. Revenons-en à nos moutons musicaux, car n'oublions pas que sans ma passion pour l'œuvre de Julien Jacob, je n'aurais certainement jamais fait cette émission. Alors voici à présent quelques chansons dans des langues inventées qui m'ont été signalées par des auditrices fidèles de l'émission. On commence en le dédiant à Ana Catarina Santos Silva. On commence par Jimmy Rendace de Tom Zé, un artiste brésilien. C'est une chanson de 1970, et je remarque au passage que beaucoup de ses chansons en langues inventées ou bricolées datent de l'immédiat après 1968.
Guta, guta, mi look, mi look, love me.
Guta, mi look, mi look, love me.
Taxi, 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 taxi,
taxi, taxi,
taxi, taxi, taxi, taxi, taxi,
taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi,
taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi, taxi,
la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
Bob Dica, diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai canonibal. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holyflex, Johnny Chop, 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 Chop. Bob Dica, diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai canonibal. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarettes, Billy Haley, Holyflex, Johnny Chop, 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 Chop. Jane chop 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 chop. Oh Jane chop 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 chop. Oh Jane chop 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 chop. Yeah 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 yeah.
Toque,
toque, se rock, se rock me.
Toque, se rock, se rock, rock me.
La, 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 la. Bob Dica, diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai camonibal. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarette, Billy Haley, Holyflex, Johnny Chop, 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 Chop. Bob Dica, diga, Jimmy Renda-se. Cai cigano, cai camonibal. Já rangiu Century Fox, Calvin Mia, Cigarette, Billy Haley, Holyflex, Johnny Chop, 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 Chop. Ojani shop 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 shop. Ojani shop 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 shop. Ojani shop 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 shop. Yehele 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 yehele. Oh, puta me look, me look love me.
Puta me look, me look love me.
Destaque, destaque, taxi.
Taxi, sotaque, destaque, taxi.
Oh, tique, boutique, que tique, tigamo.
Tique, boutique, que tique, tigamo.
Taxi, rock, si rock, rock me.
Et vous êtes toujours sur le 99.5 FM. I love mes cheveux. On parle de langues inventées, de langues construites. Et vous écoutiez, nous écoutions Jimmy Renda-se de Tom Z, 1970. Alors je pense que si j'avais diffusé ça en, sans indiquer là encore l'origine du chanteur, vous auriez étaient assez nombreux, nombreuses, je pense, à deviner qu'il s'agissait d'un chanteur lusophone, parce que quand même, on reconnaît un certain nombre d'inflexions ou d'influences de la langue portugaise. On reconnaît aussi d'ailleurs un certain nombre de mots au milieu donc, de cette langue complètement inventée et qui, pour le coup, reste inventée et non construite, puisque Tom Zé n'a pas proposé de vocabulaire, de grammaire ou de syntaxe. Ce qui est intéressant ici, et ça rejoint peut-être un petit peu ce qu'on a dit au début de l'émission avec Julien Jacob, c'est-à-dire que par le refus de donner une traduction, par le refus de proposer une grammaire, une signification, finalement, la langue est une sorte de réceptacle absolu aussi pour les émotions de la personne qui écoute. C'est à nous, finalement, de nous projeter, de nous projeter dans cette langue et de recevoir cette langue pour ce qu'elle nous dit à un moment donné. Alors malgré tout, ici, et ça arrive aussi d'ailleurs chez Julien Jacob, on aura peut-être l'occasion d'en rediffuser un morceau en fin d'émission, il y a quelques mots reconnaissables, vous avez peut-être remarqué, Cigarettes et Rolleiflex. Et pour ma part, j'avoue que je n'ai pas regardé les paroles qui se trouvent facilement sur le web, je n'ai pas regardé les paroles lors de la première écoute, et j'étais sûr d'avoir entendu Moby Dick, et d'ailleurs je continue d'entendre Moby Dick au début du refrain, et en fait c'est pas du tout ce que proposent les paroles. Donc c'est ça aussi qui est intéressant avec les langues inventées dans une chanson, c'est que finalement le fait d'entendre autre chose que ce qui est censé être dit est beaucoup plus légitime en un sens, vu qu'on est de toute façon dans l'imaginaire. Alors, il y a tout un courant assez différent et qui est lié aux langues inventées au sein d'une œuvre. Tout à l'heure, je vous ai diffusé un extrait d'une émission de France Culture avec Frédéric Landragin, le linguiste, interrogé au micro de Nicolas Martin. Et on avait commencé, ils avaient commencé à parler et même à diffuser un extrait de la langue haut-elfique, qui est une des nombreuses langues inventées par Tolkien et qui figure dans plusieurs livres du Seigneur des Anneaux. Oui, je suis désolé, je fais mon snob angliciste. Ça ne se dit pas Tolkien, ça se dit Tolkien. Alors, citons ces langues en nous appuyant éhontément sur la Wikipédia. Once again, le Kenya, mais ça ne s'écrit pas comme le pays, ça s'écrit Q-U au début. Le Sindarin, le Black Speech, le Kuzdul et l'Adunaik. Et là, sans doute que de mon côté, j'ai très mal prononcé. Alors, la raison pour laquelle je voulais tout de même parler de ces langues, bien que ça soit, comme pour Magma tout à l'heure, un des exemples les plus connus, c'est parce que je vais diffuser en hommage à P. Carroll, fidèle auditrice et grande fan de Viggo Mortensen, si j'ai bien compris, un extrait chanté en Kenya ou au Elfique par Viggo Mortensen. Alors, disons aussi, avant de diffuser ça, que Tolkien a ouvert la voie à de nombreuses auteurices de science-fiction ou de fantasy qui ont aussi intégré des langues inventées ou construites à leur œuvre, de George R.R. Martin à James Cameron dans Avatar, en passant par le Mangani ou langue grand singe inventée par Edgar Rice Burroughs pour la série des Tarzans. Alors avant de diffuser, alors ce que vous allez entendre n'est pas Viggo Mortensen parlant au elfique, langue inventée par Tolkien pour Le Seigneur des Anneaux. Ce que vous allez entendre tout de suite, c'est un extrait d'un dialogue en mangani, assez énigmatique j'avoue, publié à titre de teaser par le Compte des Assises de la Traduction Littéraire en 2021.
Oro netakal. Netakal. Goro goho. Nesen yong orta ramba. Kore yonala ved. Numa dum dum tan panda. Yel ulzu. Nala tan panda tan uk. Lano sholul usha tan ramba rak nitakal vuvo kriya. Aro pamba sopu tan dopo nita vodu. Kriya ho.
Quand le moustique est mouillé et que le soleil se lève, l'oiseau de lait chante son amour. Alors excusez-moi, je n'ai pas pété un plomb, en tout cas pas tout de suite. Je viens de vous proposer, de vous donner la traduction d'une des phrases en mangani ou langue grand singe qui figure sur ce teaser des 38e assises de la traduction littéraire publié sur le compte TV Atlas sur YouTube. Alors la raison pour laquelle ils ont diffusé ça me reste un petit peu énigmatique car je n'étais pas aux assises de la traduction littéraire en 2021, mais il y a donc un sous-titrage avec la traduction en français. Et la phrase que je viens de vous lire semble donner à penser que la langue grand singe inventée par Edgar Rice Burroughs, eh bien effectivement, est une langue qui dit un monde et un univers de référence qui nous échappe en grande partie. Alors, sans plus faire attendre la dédicataire du morceau, P. Carroll, que je remercie de m'avoir signalé ce passage, nous allons entendre Viggo Mortensen chanter en Kenya ou au Elfique par la bande originale du film Le Retour du Roi, troisième film du Seigneur des Anneaux, la musique est de Howard Shore. L'interprète est donc Viggo Mortensen. Je vais laisser un petit peu pour qu'on entende aussi René Fleming juste après.
Thank you.
Alors j'ai un petit peu honte de parler par-dessus la magnifique voix de René Fleming, mais on entendait auparavant donc Viggo Mortensen chanter en Kenya ou au Elfic, une des langues inventées par Tolkien pour le Seigneur des Anneaux. Alors il n'y a pas que la science-fiction et la fantasy qui regorgent d'idées en termes de construction de langue, il y a aussi les jeux vidéo, et c'est l'occasion pour moi de faire une troisième dédicace, cette fois-ci à ma collègue Élodie Moreau qui est venue à ce micro avec ses collègues du QFE et du Pôle R&D Tanner. On salue bien chaleureusement Élodie qui m'a donc signalé la langue du chaos dans le jeu vidéo Weight of the World. Et donc on va entendre, si j'ai bien compris qui est l'interprète, le compositeur, etc., on va entendre Keiichi Okabe donc, qui chante en langue du chaos dans cet extrait du jeu vidéo The Weight of the World. Transition était un petit peu brusque au lancement de la chanson, et c'est entièrement ma faute bien sûr, mais c'est parce que j'ai pris le morceau en cours de route, pour la simple et bonne raison que pendant les trois premières minutes de cette chanson, la chanteuse chante en anglais et en japonais, et donc c'est pour dire que effectivement, si j'avais eu le temps, j'aurais pu diffuser la totalité de la chanson. On était à fond, bien sûr, dans le thème général de l'émission « I love mes cheveux » sur Radio Campus Tours, puisque c'est une chanson trilingue qui donc alterne trois langues, dont l'une, c'est le sujet du jour, est une langue inventée. Et je pense pas une langue construite, vu qu'elle s'appelle « langue du chaos », je suppose qu'elle n'a ni grammaire ni vocabulaire. Mais j'avoue que je ne suis pas un spécialiste. J'ai découvert ça grâce à ma collègue Élodie Moreau, à qui on envoie un amical bonjour. Alors, tout à l'heure, en évoquant les œuvres de SF et de fantasy, j'ai oublié une langue importante, alors à laquelle j'ai fait une allusion quand même plus tôt dans cette émission, c'est le Klingon, la langue inventée pour la série Star Trek et développée par Mark Okrand. Et là encore, on est dans les années 70, donc il s'est quand même passé quelque chose à ce moment-là dans la culture populaire. On sent vraiment qu'un certain nombre d'œuvres, effectivement, d'anticipation futuriste, ont cherché à imaginer des langues qui sont les langues, évidemment, de peuples non humains, de peuples extraterrestres. C'est bien sûr le cas dans Star Trek. Et donc, cette langue, le Klingon, qui au départ est une langue inventée, et apparemment, moi je connais très mal Star Trek, mais apparemment au début il n'y avait que quelques mots, mais un linguiste, Mark Okrand, a fini par rédiger tout un dictionnaire et toute une grammaire du Klingon. C'est donc une langue construite. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir, j'ai parlé de la Wikipédia comme l'une de mes sources, voire peut-être ma source principale, je l'avoue honteusement, pour cette émission. Il faut savoir qu'il y a une Wikipédia en espéranto et je crois aussi une Wikipédia en volapük. Mais par exemple, la Wikipédia en Klingon qui existait au début a été supprimée par la Wikimedia Foundation. Et j'avoue que je n'ai pas mis le nez dans les débats ou les raisons qui ont fait que la Wikipédia en Klingon n'a pas été conservée, mais on peut imaginer que c'est parce que c'est une langue qui a un trop faible nombre de locuteurs. Effectivement, contrairement à l'espéranto et même au volapük, ou même d'ailleurs au latin, langue ancienne que l'on dit morte, mais il y a des gens qui essaient de parler en latin et qui se retrouvent régulièrement pour parler latin, Contrairement à ces cas-là, je crois qu'il y a assez peu de conférences ou de rassemblements ou de jamborées de klingonophones. Mais je peux me tromper. Alors, un klingonophone extrêmement connu de la culture populaire, c'est bien entendu Sheldon Cooper et toute sa bande d'amis passablement geeks. Et je vais vous faire entendre un extrait très bref d'un épisode de la série The Big Bang Theory, dans laquelle on entend Sheldon parler Klingon. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnage auto-fictionnel de Will Wheaton traduit immédiatement ce qu'a dit Sheldon, ce qui signifie que non seulement Sheldon parle Klingon, mais que son auditoire comprend ce qu'il dit.
Now fetch me Will Wheaton. Botosh beer, jablouki rek, kotnai. Did that guy just say revenge is a dish best served cold in Klingon?
I believe so.
What is wrong with him?
Everyone has a different theory.
C'était donc un extrait bref de la série The Big Bang Theory, et donc le personnage joué par Jim Parsons, Sheldon Cooper, s'exprime et lance évidemment une sorte de menace absolue à son antagoniste Will Wheaton en Klingon, et Will Wheaton, comme son voisin, comprennent parfaitement ce qu'a dit Sheldon. Alors, on pourrait imaginer, j'avoue que là, mes connaissances en matière de Star Trek ne vont pas jusque-là, on pourrait peut-être imaginer que cette phrase se trouve, c'est peut-être le cas. Il s'agit d'un proverbe, la vengeance est un plat qui se mange froid, pour traduire la traduction anglaise de l'extrait que je viens de vous diffuser. On pourrait imaginer peut-être que cette phrase en Klingon se trouve itérée, voire réitérée dans des épisodes de Star Trek, mais... Ça m'intéresse, mais c'est peut-être le cas. Mais je trouve finalement beaucoup plus intéressant d'imaginer que The Big Bang Theory met en scène un groupe de personnes qui sont toutes capables de parler et de comprendre le Klingon. Alors, je vous assure, et je vous demande de me croire, que ce florilège n'est qu'un aperçu, un survol. Je n'ai pas voulu vous saouler avec des extraits de toutes les langues inventées, imaginaires et construites, y compris dans le domaine de la SF et de la fantasy, très riche en la matière. Je vais finir sur cette question justement des langues inventées liées aux jeux vidéo et aux films en diffusant un extrait d'une chanson que Katy Perry a c'est une chanson de Katy Perry qu'elle a réenregistrée en Simlish, la langue inventée par la franchise de jeux vidéo The Sims, et j'aurai deux, trois petits mots à en dire après. Écoutez bien, il s'agit de Last Friday Night de Katy Perry, mais, alors, elle n'est pas entière en entier, hein, l'extrait fait un petit peu plus d'une minute, Last Friday Night de Katy Perry, mais qu'elle chante en Simlish.
But it's a froby nope. But it's a froby nope. But it's a froby nope. Rimpy fervor perbidex. Wara oofa moonarex. Rimpy fervor perbidex. Wara oofa moonarex. Rimpy fervor perbidex. Wara oofa moonarex. Yarby denzel table dupes. Ebe duka mimi shoops. Heepy keepsy upper goop. Yarmy denzel table doops, ebe duka mimi shoops, heepy keepsy upper goop. Yarmy denzel table doops, ebe duka mimi shoops, hipsy kiki waka whoop. Yarmy denzel table doops, ebe duka mimi shoops, heepy keepsy upper goop. We have a sticky in a park, skiba diba in a yard, dina hot a shower tark. We have a sticker in a park, skibba dibba in a yard, in a Honda shower tark. We have a sticker in a park, skibba dibba in a yard, in a Honda shower tark.
Et donc nous écoutions Katy Perry chanter Last Friday Night en Simlish, et d'ailleurs le titre Hans Himmlisch n'est pas donné dans le titre de la vidéo, qui se trouve pourtant sur ce qui semble être un compte officiel de la franchise de jeux vidéo The Sims. Alors je m'arrêterai sur trois commentaires à la fois très drôles et très significatifs postés par des usagers sous la vidéo et qui va me permettre de parler d'un petit peu autre chose à partir de cette question des langues inventées et des langues construites. Je cite les trois commentaires qui sont tous les trois en anglais et dont j'improviserai une traduction. My friend's parents are Finnish and they legitimately sound like this in conversation. Les parents de mon copain sont finnois et quand ils se parlent, ça ressemble exactement à ça. This is how it sounds when non-Korean speakers sing K-pop songs. Ça, c'est exactement le son que font des personnes qui ne savent pas parler coréen quand elles chantent des chansons de K-pop. Et enfin, troisième commentaire, This is how English sounds like for non-English speakers. L'anglais ressemble exactement à ça pour des personnes qui ne parlent pas anglais. Alors, il y a d'autres commentaires qui font un petit peu la même blague sur l'anglais. Il y a un autre commentaire qui, je crois, disait quelque chose du style « Ah, je vais faire écouter ça à des amis qui ne parlent pas anglais et leur faire croire que c'est de l'anglais. » Bon, voilà. Alors, ces trois commentaires m'intéressent. Alors, à partir de trois langues différentes d'ailleurs, ça veut dire que finalement, on a une situation relativement simple. Katy Perry chante dans une langue inventée, le Simlish, une chanson qui, par ailleurs, est connue de beaucoup de gens, puisque c'était un tube quand même. Ces trois commentaires impliquent que le Simlish est une langue inventée réussie, vu qu'elle ressemble à d'autres langues. Le finnois, le coréen quand il est mal parlé, alors c'est là où on a un petit départ aussi, et l'anglais quand on ne parle pas anglais. Alors ils impliquent également, de ce fait même, qu'on pourrait considérer le yaourt comme une langue à part entière. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que finalement, là, ce que l'on a entendu, et là encore, j'ai, pour des raisons un petit peu de clarté ou de pédagogie, j'ai diffusé l'extrait de Katy Perry en expliquant d'abord ce que c'était, mais j'aurais pu aussi faire l'émission de manière beaucoup plus anarchique, c'est-à-dire diffuser la totalité des sons au début et ensuite vous dire ce dont il s'agissait en vous ayant laissé deviner. Alors, en l'occurrence, ici, si j'avais, on peut imaginer cette hypothèse irréelle, puisque je n'ai pas fait comme ça, mais imaginons que j'ai diffusé cette chanson de Katy Perry sans vous dire ce que c'était, sans même peut-être d'ailleurs la diffuser dans une émission qui s'appelle « Langues inventées, langues construites ». À ce moment-là, bah, peut-être que certains d'entre vous se seraient dit ah, « bah, c'est de toute évidence une chanteuse anglophone ». Il y en a peut-être certains qui auraient reconnu la voix de Katy Perry. J'avoue ne pas avoir ce niveau de compétence-là. Et peut-être certains auraient pensé ah, « bah, c'est quelqu'un qui chante en yaourt ». On reconnaît des sons, il y a des sonorités qui sont celles effectivement plutôt de l'anglais. Mais ça m'intéresse de voir que des gens disent « Ah, on dirait du coréen chanté par des gens qui ne parlent pas coréen » ou « Quand moi j'entends mes beaux-parents parler finnois, c'est exactement l'effet que ça me fait ». Et c'est un petit peu pour ça d'ailleurs que le yaourt existe. Alors le yaourt, je vais arrêter d'employer ce mot sans l'expliquer parce que peut-être certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. On dit « chanter en yaourt » pour quelqu'un qui chante les paroles d'une chanson généralement assez typiquement en anglais, en disant un peu n'importe quoi, c'est-à-dire en créant des sons, en essayant de reproduire ce que l'on croit entendre. Donc le yaourt, quand on chante en yaourt, en anglais ça se dit gibberish, en japonais ça se dit soramimi, c'est quand on chante en fonction de ce qu'on croit entendre dans une langue qu'on maîtrise mal ou pas du tout. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que finalement, si on ne nous disait pas que Katy Perry chante en Simlish, en fait, tout le monde pourrait penser qu'elle chante en yaourt, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune espèce de structure. Alors, ce qui est amusant aussi, et là, vous n'avez pas vu la vidéo, mais je vous invite à aller la regarder, il y a pas mal de commentaires d'internautes sur ça aussi, c'est le fait que, bah, en fait, on voit Katy Perry dans le studio d'enregistrement et on voit qu'elle regarde très attentivement les paroles, qu'elle a le texte sous les yeux, un peu comme une sorte d'antisèche, et qu'en fait, elle s'en sert pour chanter correctement. Ça veut donc dire qu'il y a vraiment un texte extrêmement précis et qu'il ne faut pas s'en éloigner. Donc c'est assez intéressant. Ça veut dire donc que le Simlish est tout sauf du yaourt et qu'on ne peut pas soudainement se dire « Ah, je vais chanter cette chanson en Simlish n'importe comment et ça restera du Simlish ». Non, le Simlish est une langue qui, de toute évidence, a ses propres règles et qui a une textualité que l'on ne peut pas corrompre. Alors, puisque je parle de chanter en yaourt, il y a un artiste italien, un chanteur italien, on est encore dans les années 70, décidément ça a travaillé beaucoup de monde à ce moment-là. Il y a un artiste, un chanteur italien très connu, Adriano Celentano, qui a eu un petit succès en son temps. C'est en 1973. Ce n'est pas sa chanson la plus connue, mais c'est une chanson qui a eu un certain succès, avec une chanson dont je ne me risquerai pas à prononcer le titre. Je vais m'entraîner pendant la chanson et on verra si j'y arrive.
Names the 90 years old.
You're the cold maze, say one prison calling names the 90 years old. All right.
When I stay in the shoes now, I'll hold build the scene, then a whole red maybe get the color boss dying. Some another judge got David's a sham. You'd have come and not choose no bite, but not so hope a hobble just getting on the cover, no time. Oh, but if it's just stand, I'll light his shoes ago, my man. You've a costume the match called the Raider Girls. Oh, Sunday.
Aye, aye.
Nous écoutions Prison Calling and I Choose All. Je ne suis pas absolument sûr de ne pas l'avoir écorché, mais c'est un mot inventé. D'Adriano Celentano. Et donc, c'est, le titre est un mot de 11 syllabes, très difficile à prononcer. On l'entend plusieurs fois, redit par les chœurs. Et donc, c'était en 1973. Alors, petite anecdote amusante à propos du yaourt. À propos de... Et donc là, on a un exemple de chanson... écrite dans un yaourt délibéré, c'est-à-dire pour effectivement soit se moquer de la vogue de la pop anglophone, soit pour se moquer des gens qui chantaient des standards anglophones en faisant un peu n'importe quoi. On ne sait pas trop quelle est l'idée d'Adriano Celentano derrière ça. Et bien en fait, sur cette question du yaourt, ce qui est assez amusant, je vous disais qu'en japonais ça s'appelle le soramimi, eh bien en fait il y a une anecdote assez rigolote qui est qu'il y a des artistes japonais qui ont repris la chanson que vous connaissez sûrement du groupe moldave Ozone, Dragosta Dintei. Je pense que si on ne connaît qu'une seule chanson en roumain, c'est celle-là. Ça a été un énorme tube en 2005 et ça continue à passer assez régulièrement, je crois. Et donc, ils ont pris le texte de la chanson en roumain et ils l'ont, en quelque sorte, ils ont proposé une traduction homophonique en japonais de ce refrain. Alors, en roumain, alors je vous préviens, bien sûr, je ne parle ni le roumain ni le japonais, donc ce que vous allez entendre sera très écorché et très peu certifié, conforme. En roumain, le refrain, ça donne ça, et déjà, vous serez content, je ne le chante pas. « Vrei sa pleci dar numa numa yei » Tu veux partir, mais pas m'emmener avec toi. Et ça devient, en traduction homophonique japonaise, « Bei sa bei shudaru numa numa yei » ce qui se traduit par « du riz, de l'alcool de riz, boisant, boisant ». Voilà pour la petite anecdote concernant le yaourt, mais je pense que le yaourt, les traductions homophoniques, pourraient là aussi faire l'objet d'une autre émission à part entière. J'en viens à la rubrique « Le mot du jour ». D'habitude, je commence par le mot du jour, mais aujourd'hui, tout est à l'envers. Je suis seul au micro. On parle non pas de langues existantes ou préexistantes dites naturelles, mais de langues artificielles. Et donc, il n'y a pas de rubrique « Le livre traduit du jour ». Et la rubrique « Le mot du jour », eh bien, qui d'habitude suit le générique de début, elle va précéder le générique de fin. Alors le mot du jour, comme je vous le rappelle, c'est un mot difficile à traduire ou qui n'a pas d'équivalent évident dans la plupart des autres langues. Il y a deux semaines, je vous ai parlé d'un dictionnaire de mots inventés, « The Meaning of Life » de John Lloyd et de Douglas Adams, qui date de 1983. Eh bien, sur le même principe, Philippe Gueluc avait également procédé à ce genre de jeu d'invention lexicale dans les années 1990. Il avait ainsi créé un mot de toute pièce. Parmi la centaine d'exemples que l'on pourrait prendre, c'est un substantif masculin, ruskier, et donc il définissait comme suit le ruskier, homme dont l'odeur corporelle est tellement puissante que c'est le déodorant qui prend son odeur. Alors, comme vous l'avez compris, après avoir écouté l'émission d'aujourd'hui, il ne suffit pas de s'amuser à définir quelques mots fictifs à la va-vite pour inventer une langue, et encore moins pour la construire. La question de la traduction, a priori centrale dans cette émission « I love mes cheveux », est délicate ici, car la définition peut très bien se traduire, mais comment faire pour le mot « inventer » Comme je le disais il y a deux semaines, j'ai directement emprunté, importé dans mon lexique personnel le substantif « dribbler » qui se trouve dans « The Meaning of Life » et qui me sert depuis une vingtaine d'années à désigner les noms de magasins contenant des jeux de mots. Dans les années 2010, il y avait rue Colbert, une boutique de puériculture dont je salue la propriétaire Aurélie, désormais partie vers d'autres horizons. Et je la salue encore que je doute qu'elle tombe sur cette émission et alors que nous nous sommes perdus de vue. Sa boutique s'appelait « Sa Majesté des Couches ». En quatre mots, « Sa Majesté des Couches ». Alors voilà un dribbler particulièrement audacieux, inspiré du titre de la traduction française d'un roman célèbre de William Golding, « Sa Majesté des Mouches ». Le roman de Golding s'intitule « Lord of the Flies » et c'est déjà d'ailleurs une traduction littérale de Belzébuth. Je ne vois pas comment faire un jeu de mots sur les bébés ou sur les articles de puériculture en faisant une semblable référence à « Lord of the Flies ». Si vous avez une idée, faites-le-moi savoir par les canaux habituels Instagram, WhatsApp, Facebook, mail à mon adresse universitaire. Merci d'avoir écouté I Love Mes Cheveux. Pour toute réaction, demande, suggestion pour participer à l'émission, le compte Insta est là, ILMC2025. Alors on se retrouve le 22 septembre et je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute du 99.5 FM. Mais je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire sur le générique de fin. Vous aurez, je l'espère, reconnu de nouveau Julien Jacob. Julien Jacob, Alice, sur son dernier album paru en 2021, Talam City. Et vous aurez certainement remarqué qu'au milieu de cette langue inventée par Julien Jacob, il y a quelques mots que l'on reconnaît en anglais. Bonne semaine.
Miss Alice, darling in the end. Pretty Alice, darling in the end. Miss Alice, darling in the end. Miss Alice. Sweetie girl, him is Alice, golden girl.